France Culture, Avoir raison avec Ariette Taylor-Mill par Géraldine Mosna-Savoie.
Ariette Taylor-Mill, son nom ne vous dit rien ? C'est normal. Enfin, c'était normal, car après cette série d'émissions, j'espère bien que son nom n'est désormais plus seulement celui de son époux, le philosophe John Stuart Mill, mais avant tout le sien. Affranchissement des femmes, conviction qu'il n'existe pas de nature féminine, si ce n'est celle que la coutume a construite, foi dans la liberté de chaque individu à être son propre guide, et ça contre le conformisme ambiant, telle est la philosophie d'Ariette Taylor. Toute cette semaine, on a mené l'enquête Ariette Taylor-Mill et elle se clôt aujourd'hui avec l'une des rares à lui avoir consacré plusieurs pages il y a 25 ans, Michel Le Duff. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, que nous reste-t-il d'Ariette ? Bonjour Michel Le Duff.
Bonjour Géraldine.
Vous avez été universitaire, maîtresse de conférences à l'ENS de Fontenay, professeure ordinaire à l'Université de Genève et chercheuse au CNRS, directrice de recherche. Alors je l'ai dit, vous êtes l'une des rares à avoir écrit dans le monde francophone sur Ariette Taylor. C'est dans votre livre « Le sexe du savoir » paru en 1998. Comment est-ce que vous avez découvert Ariette Taylor ?
Oh, tout à fait par hasard et par accident, bien entendu, comme les meilleures choses dans la vie. Un jour, je suis tombée sur un petit recueil de morceaux choisis, chose que normalement je ne lis pas, mais bon, qui donnait des textes en disant que c'était des textes de Mill et de Harriet Taylor, mais c'était un truc un peu en pagaille. Il ne disait pas quel texte était de qui, on ne pouvait pas s'y retrouver. Alors, je l'ai tout de même lu, et puis je me suis dit, un jour, je m'occuperai de ça. Et puis, au moment où j'allais être nommée à Genève et où j'allais enseigner des études féminines, je me suis dit qu'il faudrait peut-être creuser la question parce que je veux donner à mes futures étudiantes une sorte de panorama assez clair de tout ce qui s'est passé dans les siècles précédents. Christine de Pizan, mais Simone de Beauvoir, c'était pas le siècle précédent, mais tant pis, etc. Alors, j'ai trouvé, à ce moment-là, un bouquin extrêmement utile, puis je reviens. Vous pouvez faire des montages, en effet. C'est aussi un recueil, mais pas des morceaux choisis, les articles sur l'égalité des sexes de Mill, Harriet Taylor et Helen Taylor, la fille de Harriet. Et pendant que j'étais en train de travailler tout ça, j'ai vu ma vieille amie à moi, Raymond Klibanski, qui était un érudit, comme on en faisait au début du siècle, ou du 20e siècle en Allemagne, et qui m'a dit « Oh, mais attendez, il faut commencer par le livre de Hayek ». N'était pas au courant. Alors, il le sort de sa bibliothèque et, en effet, ça complétait extrêmement bien ce volume parce que il donnait un certain nombre de textes inédits. Bon, alors, avec tout ça, je commence à travailler. Je prépare des cours. Je fais des cours à Genève sur Harriet et sa relation avec Mill. Et puis, mes élèves avaient l'air d'accrocher, surtout celles qui avaient fait sciences politiques avant et qui étaient en début d'études doctorales et qui m'ont expliqué qu'on ne leur avait jamais parlé de Harriet Taylor. On ne leur avait non plus jamais parlé d'un livre de Mill sur l'asservissement des femmes. Ça n'avait rien et j'étais tellement étonnée qu'il y en a une qui est arrivée un jour en cours avec tout un volume d'encyclopédies en français, de bouquins de sciences politiques pour me montrer que, eh bien non, dans la grande science de politologie qu'on lui avait donnée à l'Université de Genève, il n'avait jamais été question de Harriet, ni même de la partie de l'œuvre de John Stuart Mill qui traite de l'égalité des sexes, ou plutôt de l'asservissement des femmes. Alors ça m'a vraiment stimulée. Je me suis dit, si c'est comme ça, il faut vraiment que j'aille à fond dans cette question et que je lui donne une place royale dans le sexe du savoir. Car lorsque je suis rentrée de Genève, j'avais l'idée d'écrire ce bouquin. Je savais que ça allait être l'Everest à escalader, mais bon. Et je me suis mise au boulot de nouveau, en ayant découvert que des restes de la bibliothèque de ces deux-là ont été légués à un collège à Oxford. Alors je suis allée demander la permission de voir la bibliothèque de Harriet Taylor et John Stuart Mill. La bibliothécaire, très sérieuse, m'a dit « Oh, vous savez, it's a disgrace !» C'est-à-dire, c'est vraiment des petits morceaux, il n'y a rien de, qui les coordonne. Enfin, c'est mais elle m'a laissé tout de même avoir accès à ça. Et j'ai découvert, grâce à tout ça, une femme sacrément intéressante, vraiment sympathique aussi. Ça aide tout de même. Et donc, je me suis mise à écrire ce que vous pouvez trouver dans le sexe du savoir.
Alors justement, vous consacrez un long chapitre sur Harriet Taylor et John Stuart Mill. Avant d'en parler et de comprendre pourquoi vous l'avez convoqué dans le sexe du savoir, de revenir sur la thèse qui anime le sexe du savoir, pourquoi vous l'avez trouvé fort sympathique, Harriet Taylor ?
On voit aussi la personne. Dans les petits textes qu'elle a laissés, parce qu'elle n'a pas laissé un gros traité, mais des articles, et on voit quelqu'un de très gentil, très amoureuse aussi, mais après tout, tiens, pourquoi pas? Elle avait commencé sa vie d'adulte un peu tristement par un mariage avec un John Taylor qui devait pas être un méchant bonhomme, mais qui devait être ennuyeux comme la pluie. Et elle avait connu non seulement le mariage, mais je crois le devoir conjugal comme unique forme de sexualité, ce qui n'est pas spécialement drôle. Et elle est tombée amoureuse de John Stuart Mill et réciproquement. Et je crois que c'est à cette occasion qu'elle a découvert la sensualité, peut-être la sensualité liée au préliminaire, comme on dit. Et elle a été emballée de tout, y compris des relations à la nature. C'est beau, la nature. Et elle était très jeune encore. Alors, pourquoi lui avoir donné cette place de bouquet final? Eh bien, c'est un contrepoids à Simone de Beauvoir, d'une certaine façon, parce que Simone de Beauvoir, qui a surtout été traitée dans mon bouquin précédent, mais là, il y a une joie de vivre qui est extraordinaire, et puis une pensée assez originale, même franchement originale, avec des fragments qui ont réussi à aller jusqu'au cerveau de John Stuart Mill, mais pas tout. C'est-à-dire, il a compris un certain nombre de choses, et puis il y en a d'autres face auxquelles il est resté rétif. Et je trouve que c'est un mode de relation terriblement moderne, ça. Quand quelqu'un dit des choses, et puis ben oui, il y a une partie du message qui passe et puis une partie du message qui ne passe pas.
Pourquoi moderne ?
Lorsqu'on s'est débarrassé des relations d'autorité. Relations d'autorité qui, de toute façon, n'auraient pas été dans ce sens-là, puisque on est tout de même au XIXe siècle et l'autorité aurait été du côté de John Stuart Mill s'il y en avait eu une. Il n'y en a pas eu. et il n'a pas été abusif vis-à-vis d'elle. Mais c'est elle qui était, dit-il, la source d'inspiration. Bon, quelquefois, ça pouvait aussi être un peu difficile. Par exemple, quand il projette de réécrire son travail sur l'économie politique pour une deuxième édition, Harriet a changé d'avis sur un passage qu'elle avait elle-même dicté. Ah ben quoi alors ? Mais si elle change d'avis et si elle veut maintenant dire telle chose, dans ce cas-là, 5 pages plus loin, il faut aussi modifier un passage, sinon ça ne serait pas cohérent. Puis tout compte fait, du coup, il n'y a plus rien à dire contre le communisme. Et où est-ce qu'on va alors ? Il y a un débat intellectuel entre les deux, mais c'est elle qui était très souvent la force motrice.
Mais ça, d'ailleurs, John Stuart Mill l'a reconnu. Il écrit des textes pour dire que c'est la source d'inspiration, mais dans votre livre, Michel Ledeuf, Le sexe du savoir, vous battez un peu en brèche cette idée. C'est-à-dire que c'est bien de reconnaître qu'elle a été l'inspiratrice, mais vous ne semblez pas trop le porter dans votre estime, John Stuart Mill, et vous dites quand même que finalement, il avait quand même une vision, un partage entre le sexe féminin et masculin extrêmement daté, où il dit que les femmes sont plus du côté de l'intuition, les hommes du côté de la scientificité. Vous dites aussi que cette histoire d'influence, c'est une question un peu brumeuse. Voilà, donc vous semblez plus critique. On essaye de réhabiliter John Stuart Mill comme un féministe. Enfin, pas de le réhabiliter, mais de dire qu'il était féministe, qu'il a reconnu la place de sa femme. Mais j'ai l'impression que ça vous agace un peu, ça.
Bah, de toute façon, la notion d'influence est floue. Mm. Et ça n'est pas mesurable, c'est de l'ordre du je ne sais quoi et du presque rien. Donc, non, ce que j'ai voulu surtout dire, c'est qu'elle a aussi existé en elle-même. Mm. Et pas seulement comme source d'inspiration, qu'elle a laissé des textes et qu'on peut là reconstituer une pensée très cohérente, très novatrice aussi. Et une fois qu'on a compris la pensée de Harriet Taylor, on peut à ce moment-là se tourner vers le bouquin qu'ils ont écrit ensemble le plus, je crois, qui est « De la liberté ». Et là, on voit en effet comment elle a pu, dans cette relation à deux et dans cette aventure à deux, d'écrire un bouquin à deux, c'est tout de même compliqué, comment elle a pu organiser une pensée qui a été décisive pour tous les contemporains. Alors c'est vrai, ça m'agace un peu quand on la réduit à une source d'inspiration. C'est le vocabulaire de John Stuart Mill. Mm. Mais il reconnaît qu'elle l'inspirait, puis qu'ensuite elle contrôlait.
Women should not exercise judgment in political affairs.
If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure.
Vote for women! Fight for women! Vote for women!
On va. Vous venez de dire, Michel Ledeuf, que Harriet Taylor avait été très novatrice pour son époque et qu'elle avait marqué son époque. Aujourd'hui, quand on dit Harriet Taylor, on ne sait pas qui c'est. Alors, c'est un petit peu paradoxal. Elle a marqué son époque, mais on ne se souvient plus d'elle. Qu'est-ce qu'on doit en garder encore aujourd'hui, justement ? Comment la restituer cette nouveauté qu'elle a portée et qui peut-être résonne encore aujourd'hui ?
La nouveauté radicale aura peut-être été sa découverte du mouvement collectif des Américaines. Et elle s'est solidarisée avec ce mouvement, tout en gardant son libre arbitre et son esprit critique. Quand les Américaines ou des Américaines parlent d'une supériorité spirituelle des femmes, elle dit non. Alors là, excusez-moi, mais non. Mais c'est tout de même une féministe engagée qui se connecte et qui change personnellement en lisant un document sur le mouvement américain pour les droits des femmes, et tous les droits, hein, l'instruction, l'accès à tous les métiers, y compris celui de président de la République, enfin, président des États-Unis, et etc., etc. Donc, aujourd'hui, ce que j'aurais envie de sauver d'elle, ben, c'est ce qui reste, c'est-à-dire son éloge de la tolérance, qui est très fort, son idée qu'il n'y a pas de contradiction entre une vie intellectuelle et une vie sensuelle. Tout de même, à l'époque victorienne, dire que le plaisir de la chair et le plaisir intellectuel, ça va ensemble, ben c'était pas si évident.
Moi, j'ai retenu de ce que j'ai lu d'elle, en ayant beaucoup moins travaillé que vous, évidemment, sur la question, ce qu'elle dit sur le conformisme ou la conformité. Oui. C'est-à-dire qu'à la différence de John Stuart Mill, parce que je le prends en point de comparaison parce qu'ils ont écrit, travaillé ensemble, qui voit quand même dans le couple une forme de norme, une forme de moralité quand même à atteindre. C'est-à-dire qu'il faut assainir les relations entre un mari et une femme, et que ce soit une source d'égalité et de bien-être. Mais là où Harriet Taylor va plus loin, c'est qu'elle ne veut même pas de normes qui soient le couple. Elle ne veut pas se conformer à des structures familiales, conjugales. Et donc, elle va jusqu'au bout du libéralisme. Beaucoup plus que Mill. Elle a même presque quelque chose de libertarien, mais c'est face ça. À l'individu.
Oui, vous avez parfaitement raison. Elle est libertaire et libérale, puisqu'à l'époque, on n'a pas encore cassé les deux, séparé les deux. Et ce n'est pas seulement pour elle-même, d'ailleurs, qu'elle rejette la conformité. Elle dit que tout le monde devrait être libre de choisir sa vie et de s'orienter comme elle et il veut. Alors, l'article sur la conformité, vous l'avez trouvé où, sans indiscrétion ?
C'est cité dans l'ensemble décrit dans l'ouvrage qui ont été rassemblés par Françoise Orasi. Il y a un petit extrait de son essai sur la tolérance qui est reproduit dans l'introduction, où elle parle du fantôme de l'opinion et où il est question de la conformité.
Bon, moi, je l'avais lu dans le volume de Hayek. Et justement, fille honnête, j'ai rendu le bouquin après l'avoir lu et maintenant il me manque, vous voyez. Ce matin, je me disais, mais bon sang de bonsoir, j'aurais dû l'acheter. À cette époque-là, on pouvait encore le trouver. Eh oui.
On a parlé de ce qui vous avait frappé chez Harriet Taylor. Est-ce que aujourd'hui, vous comprenez pourquoi elle a été plus effacée, plus oubliée que d'autres féministes, je pense par exemple à Mary Wollstonecraft. Pourquoi Harriet Taylor, alors qu'elle avait ce côté novateur et marquant, et défricheur d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, sur le mouvement des femmes aux États-Unis, pourquoi on n'a pas retenu son nom ?
Il y a eu certainement le fait qu'elle n'avait pas écrit un gros bouquin. Elle a écrit des articles, des essais, mais Mary Wollstonecraft a écrit un livre. Et ça survit tout de même un petit peu plus. Ça, c'est une raison. L'autre, c'est qu'elle a, comme elle était proche de John Stuart Mill, elle a été absorbée par l'image de Mill. Et on pouvait parler de Mill et Madame Mill, mais du moins à la fin de leur vie, mais on n'avait pas besoin de parler d'elle séparément. Et progressivement, ça a été une cata. Enfin, j'ai trouvé un livre sur les femmes philosophes par Mary Warnock, où elle dit « c'est indiscutablement quelqu'un d'important, mais je ne peux pas la mettre ici ». Parce qu'elle n'a rien écrit. C'est des années 90, milieu des années 90.
Et vous ajoutez même dans le sexe du savoir qu'elle se trompe et qu'elle attribue l'affranchissement des femmes, donc écrit par Harriet Taylor,
oui,
à John Stuart Mill.
Oui, ce qui est un peu une erreur, puisque lui, il a écrit l'asservissement, oui, des femmes. Et à un moment où Harriet n'est plus de ce monde, et où donc elle ne peut pas lui dire, écoute, là, c'est un peu rétrograde, parce que ce qui est clair, c'est qu'après la mort de Harriet, John Stuart régresse. Et oui, mais oui, il n'a plus la stimulation de ce dialogue.
Qu'est-ce que vous vouliez démontrer avec le sexe du savoir? C'était quoi la thèse? Vous vouliez dire que la philosophie, enfin, on avait fait de la philosophie un objet allergique au sexe féminin?
Bon, il faut remonter à L'étude et le rouet, qui est un bouquin précédent qui est centré sur la question des femmes en philosophie, le sous-titre étant « Des femmes de la philosophie, etc. » Et tout est dans « etc. » évidemment. Mais l'ayant terminé et publié, j'avais tout de même le sentiment qu'il était trop centré sur la philosophie et qu'il fallait tout de même parler des sciences, parler de médecine, parler de théologie un petit peu, territoire qui m'est parfaitement inconnu par ailleurs, mais ça ne fait rien, et de sciences politiques et d'histoire, parce qu'il y a une histoire de l'histoire, Catherine McCauley, voilà. Et en fait, l'objet du sexe du savoir n'est pas centré sur les femmes et la philosophie, mais beaucoup plus sur les sciences exactes et les sciences inexactes qui existent aussi. La médecine se taille une part de lion dans l'affaire. La théologie, j'ai eu la chance de trouver Uta Ranke-Heinemann, qui a écrit un sacré bouquin qui s'appelle « Des eunuques pour le royaume des cieux ». C'est une théologienne allemande, une bonne génération avant moi. Très, très drôle et très féroce. Bon, j'ai donc voulu ouvrir la question à l'ensemble des savoirs, avec le projet de simplement stimuler, aider les jeunes femmes qui aujourd'hui débutent des études d'astronomie ou de théologie, en leur disant « Allez-y les filles, vous avez forcément raison de faire les études que vous faites. » Donc, en opposition complète à une certaine tradition française qui veut que une femme perde son âme si elle s'approche des sciences de la nature ou de la médecine, etc. Donc, en fait, l'idée, elle est là. Et vous y trouvez à peu près toutes les disciplines.
Mais d'où l'apparition de Harriet Taylor, donc en bouquet final, comme vous disiez.
Oui, alors, pour ce qui est de Harriet Taylor, c'est la philo, mais c'est aussi les sciences politiques. Et ça, il y a des jeunes femmes qui débutent des études de sciences politiques. Elles ont raison, on va avoir besoin d'elles dans 10 ans pour discuter d'un certain nombre de choses. Et Harriet Taylor, c'est à la fois la philo et la philosophie du politique.
Et qu'est-ce que vous vouliez montrer avec elle? En quoi elle devait inspirer les jeunes femmes quand vous disiez tout à l'heure « Allez-y les filles, n'ayez pas peur des savoirs ». Quel rôle devait jouer Harriet Taylor dans votre démonstration pour pousser les filles à pas avoir peur, à pas avoir peur de quoi? En quoi elle peut parler encore aux jeunes femmes d'aujourd'hui par rapport au savoir, Harriet Taylor?
Ça serait plutôt aux jeunes femmes d'aujourd'hui de répondre à votre question. L'indépendance d'esprit de Harriet, qui n'a jamais été scolarisée. Bon, John Stuart Mill, pas trop non plus, enfin, était scolarisé à la maison.
Avec son père?
Oui. Oui, et puis après, il scolarisait ses petits frères. Bon, oui, bon, les Anglais ont exploré diverses techniques. Et donc, elle montre une indépendance absolument extraordinaire vis-à-vis de tout ce qui a pu être ressassé dans les normes des sciences politiques et de l'économie politique. Et c'est comme ça qu'elle est créatrice. Il y a une question marrante, hein, brève et marrante et facile.
Vas-y, bon courage.
Je vais poser une question marrante sur... Qu'est-ce qui vous fait marrer, Harriet Taylor?
Je ne crois pas qu'elle ait eu l'intention de me faire rire. Ça serait dommage de la critiquer sur ce point de vue, mais non, son projet était de me dire « Vas-y, Michel, c'est important que tu te libères de toutes les idées reçues comme « on doit libérer les Chinoises des pieds bandés et que le corset de nos grands-mères, il faudrait aussi peut-être songer à s'en défaire. » Bon. Et donc, c'est ça. C'est ça que je vois en elle. Mais je ne crois pas qu'elle ait cherché à amuser le peuple. Bon.
Bah, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas.
Mais merci, Géraldine, vraiment.
I can see you're disappointed by the way you look at me, and I'm sorry that I'm not the woman you thought I'd be. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand. Mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. So when you look at me, don't feel sorry for yourself. Just think of all the shame you might have brought somebody else. Just let me tell you this, then we'll both know where we stand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman.
Et de Michel Leduc, vous pouvez lire Le sexe du savoir aux éditions de l'ENS qui a été réédité cette année et qui sera, je le précise, au programme des concours de l'ENS cette année. Et bien sûr, lisez John Stuart Mill et Harriet Taylor, écrit sur l'égalité des sexes, texte traduit et présenté par Françoise Orazi aux éditions de l'ENS. Et un grand merci à Anaïs Isbert pour la préparation de l'émission et à Nicolas Berger pour la réalisation. Rendez-vous lundi pour une autre série d'Avoir raison avec. Et lundi, ce sera avec Aliette Ovine pour parler de Karl Polanyi. Now I know that I'm no angel, if that's what you thought you'd found. I was just the victim of let me down. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. No, my mistakes are no worse than yours just because I'm